Jean-Paul Picci.
Bonjour, la Suisse à Rome pour un exploit. L'équipe nationale de football affronte l'Italie ce soir en phase de poule de l'Euro 2020. Cela fait 59 ans que la Nati et les Transalpins ne se sont plus rencontrés en compétition officielle. Genève, théâtre d'une rencontre au sommet historique. C'est aujourd'hui que les présidents américains et russes, Joe Biden et Vladimir Poutine, vont discuter des relations entre leurs deux pays. Nouveau rebondissement dans le dossier de l'absinthe du Val de Travers. La demande d'IGP repart à l'Office fédéral de l'agriculture à la suite d'une décision du tribunal administratif fédéral. Belle journée estivale, quelques cumulus offriront un peu d'ombre. Bienvenue car les 30 degrés devraient être atteints en pleine. La Suisse va retenir son souffle ce soir à 21h. La Nati affronte l'Italie lors des phases de poule de l'Euro 2020 dans un match de prestige. Au Stadio Olimpico de Rome, l'équipe nationale de football aura la lourde tâche de faire oublier son début de compétition mitigé avec un nul, un partout face au Pays de Galles. Mais outre l'aspect purement sportif, ce soir c'est aussi un moment historique que vont vivre les Suisses face à la Squadra Azzurra. En effet, cela fait 59 ans que la sélection nationale n'avait pas affronté l'équipe italienne en compétition officielle, Yann Esler.
Plus précisément, 59 ans et 9 jours, Jean-Paul, pour vivre à nouveau un Italie-Suisse en phase finale du grande compétition. La dernière fois que la Suisse a affronté son voisin, c'était le 7 juin 1962 à Santiago, lors de la Coupe du Monde organisée au Chili. On espère ne pas y voir un mauvais présage, vu que les Azzurri avaient battu la Suisse 3-0 lors de ce premier tour. Au niveau des statistiques, le match de ce soir sera presque aussi déséquilibré. En effet, l'Italie est invaincue depuis 28 rencontres, alors que la Suisse peine un peu avec son football depuis sa participation à la Ligue des Nations en 2019. Mais l'exploit est possible. La Suisse a déjà gagné à Rome. C'était en 1982, grâce à une réussite de Rudi Elsener. La Suisse avait battu les tout frais champions du monde italiens en match amical. Et rappelons-nous aussi de l'exploit qui a permis à l'équipe nationale d'en être là où elle en est maintenant. Une victoire à Berne en mai 1993, 1-0, grâce à un but de Marco Tiger, une victoire qui avait pavé le chemin de la Nati jusqu'à la World Cup 94 aux États-Unis, un mythe fondateur. Espérons donc que l'esprit de gagnant de cette épopée de 1994 accompagnera l'équipe nationale d'ici quelques heures à Rome.
Merci Yann, on revient plus largement sur ce match Italie-Suisse d'ici une dizaine de minutes dans le journal de l'Euro. Genève est sous le feu des projecteurs. Aujourd'hui, les présidents des États-Unis et de la Russie, Joe Biden et Vladimir Poutine, sont réunis pour un sommet d'ores et déjà qualifié d'historique. Le dirigeant américain est arrivé hier, tandis que le président russe doit poser d'ici quelques minutes le pied sur le sol suisse. Des journalistes du monde entier ont afflué au bord du lac Léman pour couvrir l'événement. Parmi eux, il y a notre correspondante parlementaire Hélène Yost qui s'est frayé un chemin à travers la cité de Calvin.
Genève s'est réveillée un peu engourdie ce matin après une première journée agitée. En effet, l'arrivée hier de Joe Biden a déjà bien perturbé les habitudes de la ville. Nous en avions eu un aperçu quand, voulant rejoindre le centre de presse, nous nous sommes retrouvés bloqués par le passage de la délégation américaine. Aujourd'hui, moins d'effervescence au sein de la population qui semble s'être pliée aux appels à télétravailler et à éviter le secteur de la rade. Les rues du quartier sont ainsi inhabituellement calmes. Nous avons tout de même eu quelques difficultés à rejoindre le centre des médias en plein cœur du périmètre de sécurité. C'est le petit reproche que l'on pourrait faire aux organisateurs. Si du côté des délégations, tout semble réglé comme du papier à musique, du côté des journalistes, certaines informations ont beaucoup de mal à circuler. Mais au final, après avoir arpenté les rues adjacentes, nous avons trouvé un point de passage. Nous voici donc installés avec d'un côté le lac ainsi que l'emblématique jet d'eau et de l'autre côté la Villa Lagrange, écrin exceptionnel de ce sommet d'ores et déjà historique.
Mais cette Villa Lagrange est en effet devenue le centre du monde, ou presque, le temps de cette journée. Pour l'instant, ses abords semblent paisibles, mais tout devrait s'accélérer très prochainement. On retrouve Hélène Yost.
Différents horaires ont circulé, mais il semblerait désormais que le planning soit le suivant. Vladimir Poutine est attendu à l'aéroport de Genève aux environs de midi et demi. Direction ensuite la Villa Lagrange où il rencontrera Guy Parmelin et surtout Joe Biden. Une photo est prévue aux alentours de 13h25. Puis place au sommet à proprement parler qui devrait durer environ 5 heures. On sait que la bâtisse a été divisée en deux, chaque délégation occupant la moitié des locaux. On ne sait en revanche pas vraiment de quoi les deux présidents vont parler. L'objectif affiché des deux côtés est celui de stabiliser les relations entre Moscou et Washington, alors que les sujets de tension sont nombreux. On peut citer, par exemple, le souhait affiché par Joe Biden de traiter du thème des droits humains, un sujet que Vladimir Poutine refuse d'exposer à ce qu'il considère comme une ingérence étrangère. Dans cette optique, la question d'un échange de détenus pourrait être abordée comme un geste de bonne volonté des deux parties. Chaque chef d'État devrait ensuite prendre la parole publiquement pour clore le sommet lors d'interventions séparées.
Notons également que le président de la Confédération, Guy Parmelin, et le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, rencontreront Vladimir Poutine en fin de journée. Un point presse est prévu à 19h30. Les cinq personnes mortes dans la chute d'un planeur et d'un avion à moteur samedi à Bivio, dans les Grisons, ont été formellement identifiées. Les deux pilotes de l'avion, des hommes de 44 et 72 ans, étaient domiciliés dans le canton de Neuchâtel. La femme de 41 ans et son fils de 6 ans sont des ressortissants français qui résidaient dans le canton de Vaud. Enfin, le pilote du planeur est un homme de 51 ans habitant le canton de Zurich. C'est ce qu'a indiqué ce matin la police cantonale des Grisons. L'indication géographique protégée absinthe du Val de Travers repart à l'Office fédéral de l'agriculture. C'est une décision du tribunal administratif fédéral publiée récemment qui l'indique. Le TAF estime que certains petits producteurs n'ont pas été complètement entendus. Cette décision n'est pas définitive et peut être attaquée devant le tribunal fédéral. Adrien Juvet, on peut dire que c'est un nouveau méandre pour le serpent de mer qu'est l'IGP absinthe du Val de Travers.
Oui Jean-Paul, puisque ce dossier traîne dans les méandres de l'administration fédérale depuis avant même la légalisation de l'absinthe en 2005, imaginez. Alors ces dernières années, en juin 2016, l'association interprofessionnelle de l'absinthe a déposé une demande d'IGP auprès de l'Office fédéral de l'agriculture. L'OFAG a lui-même admis cette inscription au registre des appellations d'origine en février 2017. Le dossier aurait pu s'arrêter là, mais l'association des artisans distillateurs d'absinthe du Val de Travers et ses membres ont attaqué cette décision. Ces petits distillateurs ont d'abord été déboutés par l'OFAG. Ils se sont alors tournés vers le tribunal administratif fédéral. Aujourd'hui, ce TAF demande à l'OFAG de revoir sa copie. Pourquoi ? Eh bien, l'Office doit prendre en considération tous les opérateurs de l'absinthe vallonnière, c'est-à-dire celles et ceux qui se chargent notamment de la coloration ou de la filtration. Mais le TAF estime aussi que les particuliers, vous et moi, qui produisons par exemple la façon, c'est-à-dire chez des artisans qui donnent leur mélange à distiller chez un professionnel, eh bien, ces producteurs à façon doivent eux aussi être pris en considération dans l'élaboration de l'IGP absinthe.
Merci Adrien pour ces explications. Le dossier est renvoyé à l'Office afin qu'il se prononce sur l'opposition de l'association recourante. Le parc décrété à La Chaux-de-Fonds s'anime pour la deuxième année consécutive. Le festival L'été au kiosque commence aujourd'hui à 15h30 avec au programme musique, boissons et restauration. L'événement aura lieu chaque semaine du mercredi au samedi jusqu'au 31 juillet. À l'affiche, une vingtaine de concerts sur scène ouverte avec notamment le chanteur Mark Kelly ou les groupes Cosmic Shuffling, Etienne Machine ou Blizzard Audio Club. L'organisation de l'événement est marqué par la collaboration entre restaurateurs, bars et acteurs culturels de la métropole horlogère. Sans cette entraide, l'été au kiosque version 2021 n'aurait peut-être pas eu lieu. Loïc Lichty, restaurateur et organisateur de cette deuxième édition.
La suite des soucis dus à la restauration, etc., m'ont plutôt fait dire j'abandonne cette année, on va pas faire, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de ce stress. Le programmateur de l'année passée, Emilio Vidal, a vraiment repoussé à que ça se fasse. Lui, il s'est mis avec Bikini Test et là, vraiment, tout le monde a poussé, tiré à la corde pour qu'on refasse.
Le mot d'ordre de l'organisation de cet événement, c'est un peu la cohésion entre différents acteurs de La Chaux-de-Fonds. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette organisation ?
On avait besoin, en fait, de cette énergie où tout le monde pouvait prendre une partie de cette responsabilité, en fait. Que tout à coup un bar nous dise « Ah ben ok, ben moi j'organise les boissons », qu'une salle d'événement dise « Ok, ben le son, nous on s'occupe », puis quelqu'un d'autre dise « Bon, la scène, on s'occupe, la programmation, moi je m'occupe », puis que ça se fasse tout seul, parce qu'on avait un mois sans aucune idée de « et ça va aboutir », et aller deux semaines jusqu'au montage, et on n'a pas encore les autorisations écrites. Ouais, il fallait que ça se passe rapidement et que tout le monde prenne une part de responsabilité là-dedans.
Des propos recueillis par Léo Ticali. On vous rappelle que l'été au kiosque commence aujourd'hui à 15h30 au parc des Crêtés à La Chaux-de-Fonds. Le RHNE assouplit encore le régime des visites aux patients hospitalisés dans le contexte de baisse des cas de Covid-19. Des visites qui seront possibles sans prise de rendez-vous préalable dès demain. Elles restent toutefois limitées à une personne à la fois par patient et par chambre pour une heure au maximum, souligne aujourd'hui un communiqué du réseau hospitalier Neuchâtelois. Dans les chambres à deux lits, les visiteurs devront s'organiser pour ne pas être présents en même temps. En pédiatrie et à la maternité, les visites sont réservés aux parents et à la fratrie, sauf exception décédée par un médecin cadre. La clinique Le Noirmont au chevet des patients qui ont souffert du coronavirus. L'établissement franc-montagnard propose un programme de réadaptation post-Covid adapté aux besoins après une évolution grave de la maladie. Un séjour de 3 à 4 semaines peut être nécessaire en fonction de l'état de santé des patients ou des déficiences. Les explications du médecin-chef, le docteur Christophe Kaufmann.
Il s'agit d'une prolongation d'un affaiblissement de fatigue au plan physique, des problèmes respiratoires ainsi que des problèmes psychologiques ou des problèmes de métabolisme nourriture. Et là, c'est de retrouver le bon rythme de vivre. Et c'est ce qu'on fait dans la réadaptation. On stimule au niveau physique avec des exercices généraux, endurance ainsi que des exercices spécifiques. Puis, on a une nourriture qui est adaptée à la réadaptation. Puis, on a un soutien psychologique, on a un rythme de dormir, on a des impressions différentes au plan psychologique. Et l'ensemble de toutes ces prestations, ça fait que le patient concerné peut se remettre, donc retrouver le fil de sa vie et regagner ses forces.
Entretien complet avec le docteur Christophe Kaufmann sur notre site internet. À mode VTT encore avec la Raiffeisen Trans. Les VTTistes ont rendez-vous ce soir au pont de Martel pour la deuxième étape de l'épreuve. Le départ de la course longue de 17,5 km sera donné à 19h15.
12h26 sur RTN.
Le journal de l'Euro.
Avec le Lobby Bar à Neuchâtel, pour vivre intensément les meilleurs moments foot. Restauration sur réservation sur lobbybar.ch.
Et la nouvelle VVI D4 à découvrir chez Automobile Seine à Neuchâtel, Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Automobile Seine, bien plus qu'un garage.
Vous serez nombreux à avoir les yeux rivés sur votre écran ce soir. Sur les coups de 21h, la Suisse affronte l'Italie en phase de poule de l'Euro 2022 football. À Rome, les Helvètes auront la difficile tâche de contenir les assauts transalpins. Après une entame de compétition en demi-teinte avec un match nul 1-1 face au Pays de Galles, la Nati espère réaliser l'exploit pour assurer son billet pour les huitièmes de finale. Mais face aux Azzurri qui ont remporté leur premier match 3-0 contre la Turquie, il faudra être solide. Pour Gerdan Shaqiri, l'exploit est possible, surtout que les gros poissons réussissent plutôt bien à la Suisse.
Je me réjouis de cette rencontre et toute l'équipe aussi. On espère faire un super match et c'est aussi une partie importante. On devra être au top. On se réjouit et on va essayer de les embêter au maximum. Ça, je pense qu'on peut vraiment les embêter et même je pense qu'on peut gagner ce match. Nous avons les qualités. D'ailleurs, nous avons démontré les dernières années que nous avions ces mêmes qualités contre les grandes équipes. Mais nous devrons tout donner ensemble si on veut réaliser un exploit face à ces Italiens.
Cette affiche prestigieuse est en tout cas très attendue par les supporters helvétiques. Cela fait 59 ans et la Coupe du Monde au Chili que la Suisse n'avait pas affronté les Transalpins en compétition officielle. Jouer contre une nation historique du football, c'est un sacré défi selon le milieu de terrain Denis Zakaria.
Gros morceau, gros adversaire et on sait que ça va pas être facile. En plus, ils jouent à domicile, donc ce sera à nous de montrer qu'on est vraiment une bonne équipe et de montrer qu'on a une place dans ce groupe. Et je pense qu'on a vraiment les qualités pour faire de grandes choses. Parce que avant le tournoi, on savait déjà qui était l'Italie, on savait de quoi était capable l'Italie. Donc on se prépare comme on serait préparé contre le Pays de Galles. Je pense que ce sera à nous d'être là dès la première minute. On sait de quoi ils sont capables. On sait qu'avec une erreur, ça peut la payer direct cash. Donc ce sera à nous d'être très attentifs ce match-là.
De son côté, l'entraîneur des Suisses, Vladimir Petkovic, est aussi conscient que son équipe ne part pas avec les faveurs de la cote. Mais il veut y croire.
Nous sommes les outsiders dans tous les domaines. Ce n'est d'ailleurs pas nous qui sommes censés gagner, mais nous devons prouver plus que l'Italie si nous voulons l'emporter. Nous voulons donc donner notre 100 à 110% et je suis sûr que nous pouvons mettre cette équipe en difficulté. C'est possible, nous devons y croire et nous allons essayer. Nous avons aussi montré auparavant, même contre de grandes équipes, de très belles choses. Nous avons notre mot à dire pour faire un résultat ce soir.
Des propos recueillis par nos confrères de la RTS Suisse-Italie. C'est donc l'affiche du jour à l'Euro de football. La Nati va tenter de faire tomber sa voisine, une Squadra Azzurra qui compte sur 28 matchs sans défaite avant de se frotter aux Helvètes. Coup d'envoi à 21h à Rome. Deux autres matchs se tiennent avant cette affiche. Cet après-midi, la Russie affronte la Finlande à 15h. À 18h, les deux autres adversaires de la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles, seront aux prises dans une partie dont l'issue sera très importante pour notre équipe nationale. Un match nul serait le meilleur résultat pour les affaires helvétiques. On reparle de football tout à l'heure dans le Café de l'Euro entre 13h et 13h30. On va évoquer ce duel entre la Suisse et l'Italie avec le Neuchâtelois Steve Van Bergen, l'ancien défenseur de la Nati, consultant pour la RTS et grand connaisseur du football italien pour avoir joué dans le calcio. Bon appétit, bel après-midi.
Le journal de l'Euro avec l'Audi Q4 e-tron à découvrir chez Automobile Seine à Neuchâtel, Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Automobile Seine, bien plus qu'un garage.
Un petit clin d'œil à la météo avec des températures très élevées, 26 à 29 degrés aujourd'hui. La barre des 30 degrés devrait être passée demain avec une instabilité qui devrait commencer en montagne demain en deuxième partie de journée et qui devrait se maintenir vendredi, samedi et dimanche avec toujours des bonnes journées mais des risques d'orage. À la fin de l'après-midi avec des températures qui dépassent les 30 degrés, allègrement 31 degrés dimanche par exemple.